Alors, j'ai Jonathan Galarneau
Bonjour.
et Raphaëla Girard.
Bonjour.
Effectivement, moi j'ai toujours l'occasion de donner un cours aux premières années. Jonathan, je t'ai jamais eu. Raphaëla, je pense pas non plus.
Non
Hein?
plus.
Voilà, alors c'est dommage, j'aurais dû prendre des étudiants qui m'auraient encensé, mais ça sera pas le cas aujourd'hui,
Non,
Luc.
peut-être parce qu'on n'a pas trouvé.
Bon, c'est correct, passons à autre chose. Donc, moi, la première chose que j'aimerais voir, c'est un peu votre parcours. Alors, Raphaël, là, toi, raconte-nous un peu ton parcours qui t'a amené jusqu'à l'éducation spécialisée.
Ben en fait, j'ai toujours aimé ça, être en relation d'aide avec mes amis, avec mon entourage. Puis je pense que j'étais quelqu'un aussi de facile d'approche. Et j'avais un ami qui faisait du théâtre avec moi, qui était en éducation spécialisée, qui parlait des fois de son programme par-ci, par-là, mais je savais pas vraiment le nom du programme. Et jusqu'à la date limite pour m'inscrire au cégep,
T'avais pas l'information
j'avais
encore.
pas l'information encore, mais j'ai regardé sur la grande feuille avec tous les programmes et j'ai vu
Ouais.
éducation spécialisée. J'ai fait, il me semble que c'est ça le programme dont il me parlait. Tout de suite, je me suis inscrite. Puis finalement, depuis ce temps-là, j'aime vraiment ça. C'est un programme qui me passionne, qui me représente beaucoup aussi comme personne.
Pas de regret.
Non, pas un
On est
regret
dans
du
la
tout.
bonne voie. Là, on est
Non.
en dernière année, Raphaël.
Oui, en dernière année.
Ouais. Ils sont en stage en plus actuellement, hein?
Oui, dans le jus du stage.
Oui, voilà. On vous a donné une petite pause là.
Ouais.
Voilà. Donc, Raphaël, c'est vraiment l'intérêt pour aller aider l'autre qui t'a amené à dire, tiens, je pense que c'est une formation qui va me répondre à mes besoins, ça.
Oui, ça, j'ai fait beaucoup d'aide aux devoirs, aller dans l'école à ma mère qui enseigne en première année, aider ses petits bouts de chou
Ah,
à
donc il y avait une
comprendre.
expérience avant, là,
Oui, quand même,
hein?
c'est sûr,
OK.
ouais. Il n'y avait pas de petite problématique
Non, non,
particulière,
non.
mais quand même, j'ai toujours été comme en soutien
C'est
aussi
ça, tu
avec
t'es
eux.
toujours mis en contexte d'aider l'autre
Oui,
d'une certaine
exactement.
façon. OK. Alors, tout le monde te voyait là aussi lorsque tu disais, tiens, je vais aller en éducation spécialisée. C'était comme, ah, oui, je te vois là ou.
Oui, habituellement, les gens ils me disaient, ah, oh, ouais, éducation spécialisée, c'est vraiment toi, ça. Puis ma mère aussi était super contente de me voir que j'allais faire une technique dans ce programme-là.
OK.
Ouais.
Un bon soutien autour de toi.
Oui, vraiment.
Excellent. Et de ton côté, Jonathan? C'est parce que toi, tu n'es pas un petit jeune, là,
Non.
hein? On sort pas du secondaire lorsqu'on débute la technique là, pour toi.
Non, non, non. Moi, j'ai débuté la technique à peu près 10 ans après ceux qui sortent du secondaire, là, en
Ouais,
fait. Donc,
ouais.
j'ai peut-être un parcours un peu plus, disons, un peu plus atypique que le reste de la population cégepienne. En gros, ce qui m'a amené à l'éducation spécialisée, je pense que je ne t'ai jamais dit à toi,
Non,
Jean-François, mais
non,
c'est
je vais l'apprendre.
le documentaire des Fipérous.
Ah ben voilà.
Ouais, une grosse révélation
Et tu
ici
l'avais vu à
aujourd'hui.
quel endroit?
J'ai vu ça à Canal-Uvie. Ouais, je m'en souviens encore, novembre 2009, là, genre à peu près,
OK.
là. Ouais. À ce moment-là, je savais pas que l'éducation spécialisée existait. Je me doutais qu'il y a des gens qui faisaient ce genre de métier-là, mais je
Ouais.
me suis demandé c'était quoi justement ce métier-là. Évidemment, à ce moment-là, je n'avais pas nécessairement de formation ou quoi que ce soit. Je me cherchais encore, là, comme on dit.
Mais c'est le fun, on fait des voyages.
Ouais, exactement. Bon. J'ai pas eu la chance de le faire,
Non, c'est
malheureusement.
ça.
Mais bon. Donc, c'est ça. Puis, c'est quelque chose, l'éducation spécialisée, c'est quelque chose qui m'est resté en tête pendant vraiment longtemps. Souvent, quand j'avais une idée qui me venait après quelques semaines, quelques mois, ça s'en allait, mais l'éducation spécialisée, ça a resté pendant un petit bout. Puis, c'est ça qui m'a amené à finir par m'inscrire là au cégep, puis à être accepté éventuellement.
Ouais. Et puis, est-ce
Ouais.
que toi, tu avais eu aussi des expériences où tu t'es retrouvé dans des situations où tu aidais les gens, ou est-ce que les gens allaient te parler à toi plus qu'à d'autres?
Ben oui, ça a toujours été comme ça dans ma gang d'amis, là. Je suis celui qui attirait les gens ou qui se mettait à parler à n'importe qui, presque n'importe quand, on va dire ça comme ça. Mais je me suis souvenu à ce moment-là qu'en secondaire 1, à l'école où j'étais, il y avait justement une classe là, avec des jeunes qui ont une trisomie 21. Puis je passais souvent mes dîners avec eux juste pour le plaisir, tu sais, les autres, ça leur faisait plaisir de passer du temps avec d'autres gens que juste ceux qui sont dans leur classe, là. Donc, je me suis souvenu que je faisais ça, puis que j'aimais ça faire ça aussi. Donc, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas, tu sais, je vais l'essayer. Puis, moi non plus,
On ne le regrette
j'ai
pas
pas
non
encore de
plus.
regrets aujourd'hui, non.
Puis tu
Moi,
vois, Luc, excuse-moi, c'est vraiment ce que les deux ont mentionné. C'est vraiment ça qu'on retrouve dans beaucoup de nos étudiants. Souvent, ils prennent conscience, c'est parce que les gens vont les voir davantage, parce qu'ils ont une bonne écoute. Puis la plupart de nos étudiants, c'est comme une base commune, ça.
Pourquoi t'as choisi Raphaëla et Jonathan?
Jean-François? Oh, très, très bonne question. Hein? Je me souvenais de ces deux personnages, étant donné que j'ai eu l'occasion de les placer en stage de première année. Et Jonathan a fait son stage avec le regroupement pour la trisomie 21. Raphaëlla était à Laval, elle avec l'aide aux devoirs, je pense, c'est ça. Et par la suite, bon, je les côtoie parce que je les vois de temps à autre, et j'ai relancé ces professeurs en leur disant « Si j'invitais ces deux personnes, est-ce que tu penses qu'on pourrait en retirer beaucoup? » Et ça a été unanime. « Ouais, aucun problème, vas-y avec ces deux-là, ça va bien embarquer. »
On parle beaucoup de trisomie, juste placer... les gens en contexte, ceux qui l'ignorent, Jean-François est papa de 4 enfants, dont le plus vieux, Carl, qui est trisomique. Ouais. Et il est l'initiateur donc du Défi Pérou qui a résulté en ce Trisomie 21, Défi Pérou, le film auquel Jonathan faisait allusion. Mm-hmm. Je vous pose la question aux trois. J'ai envie d'abord de commencer peut-être par la plus jeune. Présumant qu'elle a peut-être un petit peu moins de vécu, donc sa réponse va être moins complète, puis les autres pourront la compléter. Prove me wrong, comme dirait l'autre. Mm-hmm. Raphaëlla, quelles sont les qualités d'un bon éducateur spécialisé?
En fait, il y en a plusieurs. À mon avis, la première qui rejoint tous, c'est l'empathie, qui est vraiment présente chez mes amis en éducation spécialisée aussi. C'est drôle de nous voir aller, puis de toujours s'intéresser un peu plus aux autres. Sinon, il y a l'écoute aussi qui est vraiment super important. Il y a l'intégrité. Puis je dirais aussi l'optimisme. Dans le fond, pour croire que dans chaque personne, il y a du potentiel. Peu importe les difficultés qu'ils vivent ou c'est quoi leur parcours. Comme éducateur spécialisé, c'est important de toujours croire à nos clients puis aux personnes avec qui on est pour pouvoir les soutenir jusqu'à la fin, quand on est dans leur vie.
Oh, ça, j'aime ça entendre ça, moi.
Jonathan? Mm-hmm.
Ben, Raphaëlla a tout dit, je pense.
Il me semble qu'il manque un peu de pédagogie, là, parce que ça reste un éducateur. C'est pas juste une personne ressource.
Ouais. Il y avait beaucoup de théories dans ce que Raphaëlla a dit, mais ça reste quand même vrai. Puis, je rajouterais par contre la connaissance de soi. C'est important aussi de se connaître en tant qu'éducateur, en tant qu'intervenant. C'est important de connaître ses limites aussi. Oui, on a beau croire dans le potentiel de tous nos clients ou des gens qu'on côtoie. Par contre, des fois, faut savoir qu'on a des limites envers eux, autant qu'ils ont des limites envers nous, des fois aussi.
Ouais, il faut être capable de mettre la ligne. Faut être capable parce que c'est sûr, comme j'ai mentionné, souvent, c'est des étudiants qui veulent beaucoup, beaucoup aider. Mais à un moment donné, il faut être capable de mettre la ligne pour ne pas non plus se perdre là-dedans. Parce qu'on travaille avec des gens qui ont souvent beaucoup de problématiques, donc il faut faire attention aussi. À savoir mettre la ligne pour arrêter. Je pense qu'on a aussi tout ce qui a trait à l'adaptation aussi. L'éducateur doit s'adapter beaucoup à de nouvelles clientèles, à des gens aussi qui sont très différents, parce que tu peux avoir une personne qui est autiste devant toi, puis ça ne sera pas la même quand tu vas aller dans l'autre classe à côté avec une autre personne. Ça va être important de savoir adapter l'environnement aussi pour les besoins de ces gens-là, pour leur donner une participation sociale. Raphaëlla l'a dit, il y a énormément de qualités qu'on va tenter de rechercher et qu'on va aussi essayer de développer pendant la formation. Mais moi, j'essayais de voir un peu, qu'est-ce que vous retenez le plus de votre enseignement? Là? Vous êtes rendu à la fin. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet enseignement-là?
Dans la formation
que vous avez reçue, oui.
Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Je pense que c'est tous nos travaux en équipe. C'est toutes les techniques qu'on a apprises d'approche. C'est aussi toutes les clientèles qu'on a vues avec leurs différents besoins qui nous restent maintenant, qu'on a appris par cœur aussi.
Avec les tableaux, hein?
Oui, aussi, avec nos magnifiques tableaux. Mais ça, c'est des choses qui nous restent toujours. Puis nos profs aussi qui nous marquent beaucoup dans notre technique parce que c'est des éducateurs puis qui sont présents pour nous puis qui nous donnent plein d'informations puis d'expériences de vie. Fait que je pense que c'est plein de choses qu'on retient aussi de notre technique. Là. C'est super varié.
Et de ton côté, Jonathan?
Moi, je pense que c'est le gros bagage qu'on est capable de se faire en peu de temps. Là. Dans le sens où je considère pas avoir beaucoup d'expérience avant d'avoir commencé la technique. Puis finalement, je me rends compte que 3 ans plus tard, je vais sortir avec un bagage assez bien rempli. Que ça soit avec ce que Raphaëlla a dit, là, donc en voyant les différentes clientèles, en voyant les différentes approches pour intervenir envers ces clientèles-là, ou à travers les professeurs aussi, là, qui encore une fois sont tous passionnés, là, ça c'est sûr et certain. C'est des gens qui sont dans le milieu depuis plusieurs années, c'est des gens qui aiment ça être dans le milieu, qui transmettent leur passion, puis ça c'est un des côtés que moi j'ai beaucoup aimé dans la formation. Là.
Qu'est-ce que fait un éducateur spécialisé et que ne fait-il pas?
C'était justement ma question qui était pour venir pour dire si moi j'avais une problématique, une déficience, qu'est-ce que vous pourriez m'apporter à moi? Pourquoi j'aurais besoin de vous? Puis qu'est-ce que vous pourriez m'apporter?
Je pense qu'on commencerait par t'observer. Okay. Ouais, ça prend un bon sens d'observation. En fait, un éducateur, ce que ça fait, c'est ça. Donc, ça commence par observer quelles sont les problématiques d'un client.
Sommes-nous uniquement en contexte scolaire ou vous pouvez intervenir
absolument
ailleurs?
Absolument pas. Okay. D'ailleurs, c'est une des questions, en tout cas, personnellement, que je me fais le plus poser, mm-hmm. c'est... Mm-hmm. Mais où c'est que ça travaille, un éducateur ouais, spécialisé?
On les voit souvent dans les écoles, les centres
ouais,
de jeunesse.
C'est ça.
Souvent ben, les deux.
Ouais, puis c'est là qu'on entend le plus le mot, peut-être. Là, mais ouais, école, hôpitaux, CHSLD, centre de jeunesse. Ça peut être au communautaire, là, en toxicomanie, ouais. prostitution, femmes victimes de violences conjugales, etc. Il y a autant de milieux que d'éducateurs, là, pratiquement. Donc, il y en a qui font du privé, là, je veux dire, à la maison pour aider des familles dans leur problème avec des enfants qui vivent une problématique, par exemple. Là. Donc, voilà. Donc, c'est ce que ça fait un éducateur, c'est ce que ça observe. Ça met en place des objectifs à atteindre pour le client, en fait. Et ça aide le client, donc, à atteindre ces objectifs-là. Mm. Puis, Raphaël,
c'est exactement ça. C'est d'être là, c'est en premier aussi de créer un lien de confiance. On ne peut pas arriver puis rencontrer quelqu'un puis tout de suite lui donner des choses à faire puis des choses à appliquer. Il faut, ouais. faut aussi créer un bon lien pour après ça partir de ses besoins à lui. Ce n'est pas nous qui décide c'est quoi qui a travaillé chez lui, c'est la personne qui nous dit ce qu'il a envie de travailler. Puis ensemble, on trouve des choses puis des solutions puis des moyens. Puis si on lui dit aussi c'est quoi les ressources qu'il y a disponibles pour si nous, ça dépasse de nos compétences aussi. Là, on peut le référer au CLSC, on peut faire plein de choses comme ça aussi.
Ouais. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai eu contact avec une éducatrice spécialisée, c'était à la naissance de Carl. Je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Je n'étais pas enseignant dans ce monde-là. Et c'est la première qui est venue chez nous, professionnelle. Et effectivement, c'est un peu ce que vous venez de me dire, c'est que la première chose qu'elle m'a demandé, ben, comment j'allais, comment c'était avec Carl. Carl, elle l'a observé, elle a vu un petit peu quels étaient ses besoins et elle a commencé à me donner une série d'exercices, de stimulations que je pouvais faire avec Carl. Et elle était toujours mon point de repère un peu pour me donner des informations sur qu'est-ce qui pouvait exister ailleurs, comment je pouvais m'y prendre pour aider Carl quand est venu le temps de vouloir avoir la marche. Alors, elle est toujours là pour t'assister dans les besoins que tu peux avoir, pour trouver justement une solution ou enfin essayer d'adapter autour de toi et t'amener un peu plus loin. En tout cas, moi, c'était mon premier contact, puis j'avais dit, mon Dieu, une chance qu'elle est là.
Mais l'auditeur a peut-être l'impression que tu décris le travail d'une travailleuse sociale.
Alors ça, c'est toujours la question qu'on se pose. Bon, quelle est la démarcation entre les deux? C'est vrai qu'il y a plusieurs professions comme ça qui s'entrecroisent. On voit dans les CHSLD, Jonathan en a parlé, on a souvent des personnes qui sont des techniciens en loisirs dans les CHSLD. Chacun a ses objectifs. Chacun va travailler différentes problématiques ou différentes approches avec la personne concernée. Mais le travailleur social, souvent, ça va être une personne, effectivement, qui va faire beaucoup de références à partir des besoins. L'éducatrice spécialisée va souvent être dans le concret, c'est-à-dire okay. venir chez moi et vraiment voir qu'est-ce qu'il y en est et peut référer effectivement au travailleur ouais, social. Ouais. Tout à fait.
Est-ce que vous avez déjà une idée, parce que, bon, Jean-François le mentionnait, Raphaëlla, Jonathan, vous, tranquillement, là, on voit la fin pour l'obtention du diplôme. Avez-vous déjà une petite idée du type de besoin que vous aimeriez peut-être... aider ou est-ce que si c'est pas une clientèle précise, ça peut être un milieu particulier?
Bien, pour ma part, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants. Puis je sais que d'emblée, c'est une clientèle qui m'intéresse, peu importe les difficultés. Mais je vous avoue qu'après ma technique, je n'ai pas d'idée de où je vais m'en aller. Je sais que j'ai envie de travailler comme éducatrice spécialisée, mais là, à ce moment-là, je ne sais pas si je vais aller... me spécialiser à l'université pour continuer mes études aussi, puis prendre un peu plus d'expérience et d'âge. Mais sinon, les enfants, c'est sûr que c'est une clientèle qui m'accroche beaucoup.
Jonathan, est-ce qu'on a... des idées déjà?
Je sais pas trop. C'est sûr que ça va dépendre de ce qui s'offre également. Mais je dirais que tout ce qui est déficience intellectuelle, pardon, j'ai une assez grande facilité à cette... avec ce type de clientèle-là. Sinon, enfance aussi, j'ai fait mon deuxième stage en centre jeunesse et j'ai vraiment plus aimé ça que ce que je m'attendais. Donc, c'est un milieu dans lequel je me verrais peut-être aussi, du moins en enfance. En adolescence, ça reste à essayer. C'est un milieu différent.
Jean-François, je ne sais pas si tu as les données, mais est-ce qu'il y a des clientèles qui sont plus populaires que d'autres en général?
Habituellement, lorsqu'ils arrivent, on les accueille la première journée au cégep. Et on se rend compte qu'une grande majorité, ce qu'ils nous parlent, c'est les centres jeunesse.
Ah, oui.
Troubles du comportement, okay. Adolescents, centres jeunesse. Déficience intellectuelle, personnes âgées, oh, ça arrive, là, mais c'est pas fréquent.
Ouais.
Et c'est ça qui est beau dans cette formation-là, c'est que, comme Raphaël a mentionné, on a plusieurs clientèles qu'on voit et il y a des stages. Ils ont trois stages et les stages leur permettent d'aller voir autre chose que ce qu'ils sont rentrés avec l'idée. Parce qu'on aime bien leur diversifier un petit peu les horizons. Donc, on se dit, OK, bon, d'accord, toi, c'est les centres jeunesse, t'aimerais ça aller voir ça, d'accord, mais ton stage 1, si on t'envoie à tel endroit, va donc voir à quoi ça ressemble, va voir qu'est-ce que tu peux en retirer aussi. Puis, il y a des fois des étudiants qui reviennent en disant, waouh, ah ben, les personnes âgées, je pensais pas, mais c'est intéressant, je suis pas certain, mais je suis content de l'avoir vu, puis peut-être que ça me dérangerait pas. Alors, ça permet d'ouvrir un peu plus large au niveau des stages. Puis, vous, les stages, qu'est-ce que vous en avez retiré? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez apprécié là-dedans?
Bien, pour ma part, c'est exactement ce que tu viens de dire, Jean-François. Moi, j'étais allé en centre jeunesse en stage 2 parce que je me voyais absolument pas avec cette clientèle-là. C'est pas quelque chose qui m'attirait, mais je me suis dit, je vais y aller en stage, je vais l'essayer, ça va être fait. Puis au moins, si j'aime pas ça, ben ça sera juste un stage. T'sais, ça sera pas mon travail.
Ouais.
Puis finalement, ben agréable surprise, j'ai vraiment aimé ça. C'était complètement différent de ce à quoi je m'attendais. C'est différent de ce qui est des stéréotypes, là, je pense, de la société, là, je dirais. C'est pas mal ce que j'en retire, là, du moins de mon stage 2. Pour le reste, c'est vraiment, comme j'ai dit tantôt, c'est un bagage d'expérience. Donc, c'est de l'expérience qu'on accumule. Puis, c'est des façons d'intervenir qu'on apprend. Puis, ben, en gros, c'est ça.
Et Raphaëlla?
Bien, moi aussi, c'est un petit peu comme Jonathan. À mon stage 2, je me suis ramassée dans une classe TSA avec des jeunes de 9 à 11 ans. Puis au départ, quand je suis rentrée en technique d'éducation spécialisée, moi, je me suis dit, déficience intellectuelle, TSA, je suis pas trop sûre parce que, en fait, je savais pas non plus qu'il y avait des degrés aussi là-dedans de niveau. Mais finalement, c'est un de mes coups de cœur. J'ai vraiment aimé ça être avec des classes TSA. Et je trouve que c'est tellement des enfants attachants qui t'apportent tellement d'expérience puis qui te remettent tellement en question des fois. Mais sinon, en stage aussi, tu rencontres des nouvelles personnes, tu apprends à travailler en équipe pour vrai avec des gens, avec plein de sortes de gens, puis à travailler aussi de façon professionnelle puis d'amener tes idées. Puis c'est vraiment, tu peux tout appliquer ce que tu as appris puis apporter aussi un petit peu de ta personne là-dedans. Puis tu te rends compte à quel point tu as de l'impact aussi puis que c'est ça que... Tu te rends pas compte à quel point que tu fais la différence des fois dans des milieux.
Oui, c'est souvent ça, moi, que je leur dis aux étudiants. Attention, votre travail, c'est pas comme un architecte où lui, il va construire un pont, il va construire une maison, il va l'avoir, sa maison. Vous, moi, je les appelle les agriculteurs de l'esprit. Ils viennent semer de petites graines dans la tête de gens. Et des fois, tu vois le résultat, mais parfois, tu vas terminer ton stage, terminer ton travail là, où la personne va quitter la ressource, et tu le sauras pas ce que ça donnait. Et malheureusement, on ne les revoit pas toujours par la suite. Et moi, ça m'est arrivé une fois dans ma carrière où j'ai revu un jeune que j'avais vu à l'école secondaire, qui était rendu beaucoup plus âgé actuellement, et il est venu me remercier. Puis moi, ça a été comme « wow ». OK, donc lui, que je pensais que j'avais pas fait de différence parce que quand il a quitté, il était pas mal pareil comme au départ, il avait eu la chance de réfléchir à tout ça et ça l'avait amené à aller plus loin. Alors, c'est ça que je leur dis. Faites attention, vous ne le voyez pas concrètement tout de suite, mais c'est plus tard que ça va arriver, puis des fois, vous ne le voyez pas. Alors, il ne faut pas être découragé. Il faut toujours continuer à semer les petites graines, puis on se dit, celle-là, j'espère qu'un jour, elle va donner quelque chose.
Mais moi, je me suis rendu compte de ça à la fin de mon stage 2, justement. Ouais. C'est quand mes enfants TSA, qui ont la difficulté avec les contacts, puis tout ça, ils sont venus me voir à la fin, à ma dernière journée de stage. Ils sont tous venus me donner des câlins.
Wow.
Puis, tu sais, j'en revenais pas. J'étais tellement émue, puis j'étais contente. Puis, je suis retournée pour les voir à la fin aussi de l'école, après mon stage, comme peut-être un mois après. Puis quand je suis rentrée dans la classe tout de suite, « Ah, oh, Raphaëlla, Raphaëlla! » Puis ils sont venus me voir puis me donner des câlins fort, fort, fort. Puis je voyais qu'ils s'ennuyaient puis qu'ils m'avaient apprécié pendant que j'étais là.
C'est ces moments-là qu'il faut retenir.
L'aspect pédagogique, quelle place prend-il? Parce que à la fois, on veut aider, écouter, épauler, donner des trucs, mais il y a aussi des atteintes. Je veux dire, il y a un programme qu'on met de l'avant, puis il y a des objectifs à atteindre dans ce programme-là. Où est la place de la pédagogie dans une relation aussi émotive, peut-être, que celle que vous pouvez vivre avec vos jeunes, si on prend les jeunes?
Une bonne question.
Oui, c'est une très bonne question. un petit peu difficile à répondre. Je dirais que la pédagogie vient appuyer les personnes qu'on est déjà à la base, là. Je pense qu'elle vient nous pousser un peu plus loin dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut faire. Évidemment, il y a des évaluations et tout, mais on est évalué... au final, je pense qu'on est évalué sur ce qu'on est capable de faire. Pas nécessairement concrètement, j'ai un petit peu de misère à l'expliquer, mais la façon de le faire, plus que le résultat que ça donne, en fait. Là.
OK. Je ne
sais pas si ma réponse est très claire.
Peut-être. Est-ce que lorsqu'on se fixe des objectifs, en fait, puis je me tourne vers Jean-François, est-ce qu'une personne peut préférer, disons, être avec un groupe, mais être plus habileté à aider un autre type de personne? Exemple, Raphaëlla aime les jeunes, elle est touchée par les jeunes, mais elle serait bonne avec elle serait peut-être meilleure avec les adultes handicapés visuels.
Ouais. Et c'est fort possible. Et souvent, ils ont des compétences transférables. Et c'est ça qu'on essaie de leur rappeler. Des stages, parfois, c'est des endroits où tu apprécies un peu moins, c'est une clientèle qui te tente moins, mais il y a des compétences que tu vas aller développer, que tu peux transférer ailleurs. Et effectivement, je pense qu'au fil de leur formation, ils finissent par trouver avec qui ils se sentent le plus à l'aise, avec qui je pense je vais pouvoir donner le maximum de ce que je suis. Et chaque éducateur trouve sa place, je l'espère, avec une clientèle qui se sent à l'aise avec. Mais ça se peut effectivement qu'après quelques temps, on se rende compte qu'on n'est plus trop à l'aise avec la clientèle, on a moins de patience aussi. Puis moi, je leur rappelle de dire, je sais que c'est facile à dire, mais ne soyez jamais captif d'un boulot parce que vous travaillez avec des humains. Et moi, j'aime bien voir un éducateur qui a le sourire et qui a le plaisir de travailler avec l'autre parce que l'autre a le droit de recevoir ça, un peu comme Raphaël a dit, d'avoir confiance dans tes capacités, d'être capable de reconnaître ton potentiel. Mais si j'ai plus aucun intérêt de travailler avec toi ou dans la ressource où je suis, puis-je sortir et aller ailleurs? Je sais que c'est facile à dire, mais il faudrait ne pas se retrouver captif de ça. Ça serait important, ça. Moi... Il y a une question que je me pose toujours, parce que moi, je crois que lorsque vous rentrez en première année et lorsque vous quittez à la troisième année, vous n'êtes plus les mêmes. C'est ce que je perçois. Puis là, moi, je me demandais, puis là, c'est le fun, j'en ai deux devant moi que je vais pouvoir questionner. Est-ce que ça vous change? Est-ce que ça vous transforme?
Réponse courte, oui.
Et de quelle façon?
Ben oui, c'est sûr que ça nous change. Je dirais que, premièrement, pour y aller avec la réponse facile, quand je suis rentrée en éducation spécialisée, je savais pas ce que ça faisait un éducateur, mais pas du tout. Fait qu'au niveau des connaissances, j'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Puis là, maintenant, je sors, puis je sais où que je peux aller travailler, je sais comment je peux aider les gens autour de moi et tout ça. Mais je suis aussi... maintenant, plus sensible aux autres. Quand je me promène dans la rue ou quand je suis dans le métro puis que je vois les gens, j'ai moins de jugement facile parce que maintenant, je comprends mieux ce qui se déroule autour de moi. Fait que c'est vraiment au niveau de la sensibilité comme personne qui se développe durant la technique. Puis des gens qui sont dans la technique aussi, que souvent ont des problématiques particulières qu'on rencontre souvent. Mais oui, c'est vraiment au niveau... la sensibilité, puis de la maturité qu'on prend. Puis au niveau professionnel, dans nos analyses cliniques, ben, des analyses qu'on fait, des vignettes et tout ça, fait que c'est tout ce regroupement-là.
Est-ce que les gens autour de toi ont dit « Mon Dieu, t'es plus pareil, Raphaëlla », est-ce que ça, c'est des commentaires que t'as pu recevoir?
Non, pas vraiment, parce que je pense qu'on reste quand même, au fond, on reste la même personne, là. Je pense que les gens, c'est trop
subtil. Surtout si vous disiez être aidante de nature.
Ouais. C'est plus au niveau personnel qu'on change dans nos perceptions, pas dans ce que les gens voient de nous, là.
OK. Ouais. Et Jonathan?
Je dirais que c'était peut-être dans mes relations interpersonnelles que ça a changé. C'est certain que je peux pas vraiment dire que j'ai pris la maturité à l'âge où je suis rentré. Là, je veux dire, j'ai dit ça humblement, là, mais éventuellement, on atteint un certain degré. Là, mais dans mes relations interpersonnelles, là, vraiment, de comment j'interagis avec les autres versus comment je perçois ce que les autres me donnent. Si quelqu'un dans mon entourage va pas bien ou est en difficulté ou quoi que ce soit, je sais plus maintenant pourquoi je fais ou que je dis telle chose.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un job qui ratisse tellement large. Oui. Hein? On parle d'élèves de première année ou d'élèves dans un centre jeunesse. C'est pas le même bout de chou, là. C'est pas c'est la même réalité. Non, c'est non, même non. pas la même façon d'intervenir.
Ouais.
C'est différent.
C'est différent. Juste très, très rapidement, est-ce que pour vous, la société est plus inclusive qu'avant?
Qu'avant? C'est difficile à dire. Oui, mais non.
OK.
Ça dépend des sphères.
Et Raphaëlla?
Moi aussi, je dirais un oui, là. Avec un N au début.
Hey, un gros merci de votre présence.
Merci
c'est bien apprécié.
Merci. Ça fait...